Voilà, qu'il soit politique, un juriste ou les deux, je rappelle que nous sommes avec Guilain Bénessa pour son livre « Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne ». C'est une histoire de l'Union européenne qui est, franchement vaut le coup d'être lue. Et on apprend énormément de choses, c'est assez effrayant.
Il faut dire. Froid dans le dos, oui.
Fait un peu froid dans le dos, donc c'est chez l'artilleur. Donc qu'il soit politique, juriste ou les deux, hein, c'est de bon ton à Bruxelles. Vous écrivez que il s'appelle donc Monnet, Spaak, Alstein, Lagrange, Godet. Et ils ont tous un ennemi juré, c'est Charles de Gaulle. Ils ont un ennemi juré et ils ont aussi un passé qui est, alors on a parlé tout à l'heure d'un d'eux,
Lagrange,
mais il n'est pas le seul à avoir un passé dans auprès de l'Allemagne nazie.
Non, alors évidemment, non, il n'est pas le seul, ils sont beaucoup plus nombreux encore, mais ouais. le principal, on connaît, c'est Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne. Juste un petit mot sur Hallstein qui est très drôle, encore je trouve très cocasse. Si vous consultez l'IA, d'accord, vous allez faire des vérifications avec l'IA française. Je ne pourrais pas vous dire lesquels, j'ai oublié, mais j'utilise notamment ChatGPT, pas pour mes recherches à moi. J'aime bien croiser les infos, vérifier un peu ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, voir si oui, ça marche ou pas.
C'est votre côté journaliste.
Peut-être, mais j'ai besoin de savoir. En fait, si vous voulez, je suis obnubilé par savoir si j'ai deux sources qui disent quelque chose. Une seule, ça ne me suffit pas. Donc pour la note de bas de page, je connais, j'ai fait ma thèse de doctorat, je sais les limites des notes de bas de page qui répètent des notes de bas de page qui répètent des notes de bas de page. Et au bout, quand vous vérifiez, plus personne ne sait quelle était la première note de bas de page. Bref. Ouais. Donc, Walter Hallstein, si vous consultez certaines IA françaises, vous y allez, vous demandez, on vous dit la chose suivante, ah non, pas du tout, il n'est pas nazi, ça relève du complotisme. Ok, donc on fait les vérifications, et là vous allez du basket du côté des Allemands, et là des historiens allemands admettent aujourd'hui que sur les nombreuses associations national-socialistes dont il a été membre, il y en a 3 ou 4, ça a été volontaire de sa part, parce que c'était un hitlérien, un vrai, pas un type qui est vaguement tombé au bout du couloir qui ouvre une porte, quoi. La chose est réglée. Et le débat, si on lit Ernst Klee l'allemand par exemple, le débat ne se pose même plus. Ils ont admis l'information. Alors après, je présume qu'il reste quelques zones d'ombre encore, mais sur le principal et sur la biographie du personnage, ça ne fait pas tellement l'objet de débat, sauf en France. Bref. Hallstein étant dans l'œil du cyclone quand même de pas mal de gens depuis quelques années, moi je me suis intéressé évidemment à ceux qui étaient derrière, parce que c'est pas ma seule porte d'entrée, mais je constate quand même que dans ces temps d'ultra-wokisme et de déchéance du débat, on va dire ça comme ça, on se retrouve quand même rapidement à être catalogué, parce que il suffit d'avoir dîné avec un homme qui un jour a croisé 2 minutes 20 Jordan Bardella lors d'une soirée pour qu'on devienne crypto-fasciste. Je pense que ça suffit. Et ce qui m'est tombé dessus,
mais c'est pas nouveau.
Je lisais un article tout à fait sérieux et intéressant sur les cours de justice, avec cette petite phrase en bout d'article qui disait « Il faut espérer que ces informations ne tombent pas entre les mains d'infâmes populistes, ça pourrait faire du mal à l'Union européenne. » Et les informations en question, c'était que sur 4 juges parmi les 9 premiers juges de la Cour de justice,
c'est ce que vous racontez.
C'est 4 qui ont un problème lourd avec leur passé. C'est-à-dire qu'on a Lagrange, le vichiste, on a Karl Romer, qui a exploité les biens français pour le régime nazi tout en mentant, en disant qu'il est passé par Paris 15 jours. On se rend compte qu'il était 4 ans à Paris et qu'il a fait, il faut être clair, du pognon sur ce qu'il a réalisé. Qu'on a un fasciste également dans l'affaire et que tout ce petit monde a organisé les premiers verrous de ce droit européen naissant à partir des années, en gros, des milieux 50, 57, 60, en quelque sorte.
C'est ça. Oui, Damien Chalamel.
Oui, bah en fait, je suis pas du tout convaincu, encore une fois, quand vous dites c'est très intéressant de s'intéresser aux hommes.
C'est bien,
mais je pourrais vous dire que Konrad Adenauer était un grand européiste et un opposant au nazisme. Donc, si vous voulez, c'est trop facile, parce que et en 1940, effectivement, énormément de les Français d'une part et les élites d'autre part étaient derrière le maréchal Pétain. Et c'est pas parce que vous avez appartenu 6 mois au premier gouvernement du maréchal Pétain et servi Raphaël Alibert, puisque c'était le premier garde des Sceaux, que ça fait de vous une espèce d'antisémite rabique.
Je dis qu'il y a une pensée du droit qui vient de là. Moi, ce que je dis, c'est que comme par hasard, il n'y a aucun patriote dans l'affaire, jamais. J'en ai pas trouvé un sur les 40 juristes qui traînent dans mon bouquin. Chaque fois, c'est un problème. Soit ils font l'apologie de la supranationalité, soit la France, elle les intéresse plus, soit la langue française, c'était hier, soit il faudra que... Vous savez ce que disent les juges français à l'époque, dans les années 50, ils disent « Il est temps de passer à la libre circulation pour que les peuples s'interpénètrent, que le métissage commence, etc. » C'est du Jacques Attali.
C'est la supranationalité.
Je vous citerai le jeune européen de Drieux La Rochelle, qui était un vaillant combattant déjà de la Première Guerre mondiale, un patriote déçu par son pays et qui pensait que le dépassement des États-nations devait se faire. Alors, malheureusement pour lui, en 1940 et 1944, il a trouvé ses maîtres. Bon, moi, j'ai quand même une question très sérieuse à vous poser. Il y a un parti qui est susceptible de soutenir celui ou celle qui sera président de la République l'année prochaine, c'est le Rassemblement National, et qui, alors ça me laisse extrêmement perplexe, prône la réforme de la Constitution en passant par l'article 11, c'est-à-dire en allant directement devant le peuple, en soumettant par la voie référendaire la possibilité de réformer la Constitution afin notamment de réformer drastiquement des pans entiers du droit français. Bon, il se trouve, mais vous allez peut-être l'expliquer à nos auditeurs, que je pense que cette réforme par l'article 11, pour ne pas paraphraser le président Fabius, n'est pas possible. Mais peut-être que vous allez nous expliquer, ou alors à moins que vous pensiez que ce soit possible. Mais moi, je pense
réviser la Constitution par l'article 11.
Par l'article 11.
Oui, on sort un peu du sujet.
Non, mais si, c'est très intéressant parce que c'est quand même un pan entier.
J'ai une question. Alors, je réponds à la question, d'autant plus qu'elle me permet de faire le lien. Je cherchais une réponse à cette question, comme vous. Parce qu'on a un débat depuis longtemps, est-ce qu'on peut ou pas changer la Constitution par référendum ? Pour qu'on soit clair, je vous sors un peu du débat avec que tous les auditeurs comprennent.
Ouais.
J'ai cherché la réponse à ma question.
Que faire ?
La réponse à ma question, elle est donnée par le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, Michel Droit lui demande « Mais mon général, qu'est-ce qu'on peut faire en la matière ?» Et il répond comme ça, mais clairement, il répond « C'est moi qui ai rédigé la Constitution. C'est moi qui sais ce qu'il y a dedans, etc. » Général de Gaulle, et il répond « Naturellement que on peut tout faire et en premier lieu changer le mode d'emploi, c'est-à-dire réviser la Constitution. » Mais... Qu'est-ce qui empêche d'utiliser l'article 11 aujourd'hui ? La mentalité somatisée par des élites judiciaires, si je puis dire, qui ont admis l'inadmissible, c'est-à-dire de faire le contraire de ce que la Constitution commande. Naturellement qu'on révise avec le peuple, naturellement qu'on révise par référendum. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que cela ?
Alors, moi, je...
De Gaulle disait, cher Damien, si vous me permettez 30 secondes, De Gaulle disait, c'était assez simple, et je vais dans ce que... vous disiez, M. Benessa, De Gaulle disait, voilà, il y a la France, il y a l'État, et il y a le droit. Le droit, c'est du bricolage.
D'accord, mais là, alors moi, si vous voulez, je suis à la fois d'accord avec Guylain Benessa, et en même temps...
Mitterrand aussi.
Et en même temps, c'est une très mauvaise réponse que nous donne notre ami Benessa. Pourquoi ? Et parce qu'il le sait. Non, mais parce qu'il le sait très bien. Bon. Il le sait. Non, mais c'est important qu'on ait ce débat. Et je pense que c'est intéressant que les auditeurs le sachent. C'est que, d'abord, l'article 11 n'a jamais été fait. Alors, il le dit qu'il l'a rédigé pour réformer la Constitution.
Non, mais je suis rapide. On passe pas deux heures sur l'article 11. C'est pas du tout le débat. Je voulais
mais c'est intéressant.
Si,
c'est le. C'est le que faire. Non, mais c'est pour répondre à la question de Jean-François sur le que faire. C'est que il faut que les auditeurs comprennent que si le Rassemblement National en l'État tente de réformer la Constitution en allant directement au peuple par le référendum, il s'expose à une crise de régime majeure. Et pour une raison particulière, et Guylain Benessa le sait très bien, c'est que le Conseil constitutionnel, depuis un arrêt récent, s'oppose à cette voie.
On va refermer la parenthèse. Ouais,
d'accord, c'est pas du tout. Bah, comme moi, je ferai les choses. J'ai jamais dit que je ferai un référendum pour réviser la Constitution.
Bon,
vous en parlez.
On en fera une émission.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Mais moi, j'ai jamais dit que je ferai ça. Je le ferai absolument pas. C'est pas du tout ma ligne.
Vous ne le feriez pas, d'accord. D'accord.
Non, parce que pour moi, on a déjà les outils actuels tels qu'ils existent. On peut déjà faire des choses.
Il faut simplement
le faire. C'est ça qui m'intéresse.
Il faut simplement, dans la Constitution française, remettre la primauté du droit français sur le droit européen.
Mais elle n'a jamais disparu véritablement.
Déjà. Oui, mais elle est interprétée d'une façon bizarre.
Mais bon, certains outils existent. La condition de réciprocité, par exemple, devrait être appliquée. Vous l'appliquez, il y a toute une chose qui déjà tomberait d'elle-même.
Absolument.
Mais on n'a plus rien du tout. Ouais. On a laissé filer. Alors, évidemment, comme ça.
Mais moi, forcément, c'est la réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le que faire. La question de Jean-François Coulon des Arts. Le que faire, c'est ça qui m'intéresse dans votre réponse. Vous dites, moi je ferais autrement, je ne me passerai pas par.
Et parce que je pense qu'en réalité, pour vous répondre, et je sais que là on est en train complètement de dériver, mais je vous réponds clairement à la question. Je pense que la question n'est pas tellement une question de texte. La question, c'est de modifier totalement, il faut vidanger nos élites. Voilà. C'est très simple.
Une question d'homme.
C'est... Ah mais, fondamentalement. De toute façon, regardez, je ne suis pas rentré dans ce livre, là je fais le lien, je ne suis pas rentré dans ce livre en m'imaginant faire une biographie secrète ou quoi que ce soit. J'y suis rentré en me rendant compte des informations majeures qui m'étaient données, juste par la lecture. Il y a 6 mois de lecture où j'ai, J'ai bouffé de la notion. Point. Et je me suis dit, c'est pas possible. Lui, il a pas pu croiser lui et un tel dans tel cabinet. Il peut pas être l'assistant du premier. On se rend compte, quand je déroule ma chronologie de tous les maîtres, selon moi, les pseudo-maîtres, hein, mais ouais, qui détiennent l'Union européenne, ils ont tous été l'assistant les uns par rapport aux autres. Ils ont tous été noyautés à l'origine par le comité d'action des États-Unis d'Europe, payé par les USA. Ils ont tous été soit l'ami de l'un, soit assistant du deuxième. Au bout d'un moment, ouais, on ne peut pas fonctionner. C'est une mafia. Demain, de toute façon, je vais vous dire, demain, on voudrait tout changer. Oui. Si cette mafia est là, elle va tout annuler. Hein.
Oui, mais alors, justement, aux États-Unis, qui suivait? Quel était le référent de M. Monnet et comparse? Parce que je suppose qu'il y avait un type, un Américain ou un groupe qui suivait ça. Au jour le jour, cette espèce de construction.
Alors, franchement, là, pour le coup, Jean Monnet, il avait quand même accès à la Maison Blanche directement. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Roosevelt était directement de la partie pendant la guerre. Hein. Oui. Et après, il avait accès quand même via la CIA. Il était quand même dans le gratin, je veux dire, du pouvoir américain. Maintenant, il faut être aussi clair. Derrière, vous avez des juristes, j'en nomme quelques-uns dans mon livre, des juristes américains, qui avaient travaillé sur des projets de fédération, d'accord, en réfléchissant notamment aux États-Unis. Mais ils ont utilisé ces exemples et ces modèles en se disant « on détient des choses ». Je vous donne un exemple. L'un est assez connu, l'autre moins. Le premier exemple, assez connu. Parmi vos auditeurs, certainement. Malheureusement, en France, beaucoup moins. Mais la fameuse haute autorité, la commission, vient d'un terme américain. C'est la High Authority of Tennessee, qui avait été travaillée par Paul Reuter, l'un des conseillers de Jean Monnet. Et Jean Monnet, Maurice Lagrange dira des années plus tard que Jean Monnet avait une telle fascination pour les États-Unis qu'il fallait récupérer le lexique venant de la Fédération américaine. Donc il voulait copier le modèle, même en termes de, comment dire, de nom. Voilà. Et deuxième chose qui m'a frappé, c'est que dans les premiers jours où la construction européenne est lancée, Maurice Lagrange fait le service après-vente de l'Europe naissante, notamment de ses juges, qu'il a créé, et on ne comprend pas trop ce qui se passe encore. Il est le seul concepteur véritable qui comprend. Il fait le service après-vente en allant à travers l'Europe. Il a invité une université en Espagne, etc., etc., pour expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Parce que personne ne comprend rien. Et il écrit, noir sur blanc, à son correspondant américain, « Je suis en train de créer une cour suprême sur le modèle américain. C'est ça mon objectif, c'est ça mon idéal. » Ça veut dire que Lagrange sait parfaitement, lui, que là encore, l'objectif, c'est Cour suprême américaine, modèle fédéral, on coiffe ça, et à terme, ça pourra fonctionner. C'est évident que c'est en gestation complète. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un peu le pire de tous les modèles en Europe. C'est ça le problème. On n'a même pas une vraie fédération, on a une espèce de gloubi-boulga fou. Mais il n'empêche, c'est le premier jour que tous ces modèles-là sont conçus, avec notamment les États-Unis en toile de fond, à la fois pour des questions financières et pour des questions de modèles juridiques.
Et donc, ils vont dérouler. Hein, je rappelle que nous sommes avec vous, Guilain Benessa, nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE, c'est chez l'artilleur. Donc, il va y avoir un premier hausse, on en a parlé tout à l'heure, dans ce déroulé qui s'est quand même passé de manière incroyablement fluide, hein, avec quelques os quand même, des petits os. Donc le premier, c'était De Gaulle. L'os se retire en 1969, lorsque De Gaulle démissionne. Il y en a un deuxième qui est la CED. Et là, il y a un échec. Hein, le 27 mai 52, les six signent le traité sur la CED, hein, les six membres de l'Europe, qui, une fois lu en détail, apparaissent être qu'une somme d'articles au service du grand songe fédéral. Je vous cite, hein, d'abord, il prévoit qu'aucun État membre ne recrutera ou n'entretiendra de forces armées nationales hors des hypothèses prévues par le texte. Bref, cet schéma d'armée européenne échoue.
Et prévoyez la CED, j'y pense, parce qu'Emmanuel Macron parle d'Europe de la défense tous les 4 matins.
Exactement. Donc
c'est une hérésie totale, ça. Il n'y a pas d'Europe de la défense.
Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce que prévoyait ce traité en 52 que Michel Debré, heureusement, a lu en entier en se disant « mais on est en train de faire ça » parce que personne ne lisait en entier. Il était prévu, littéralement prévu, la réquisition des écoles militaires françaises à la demande de l'Europe. Ça veut dire que demain, vous faites tout disparaître. Je veux dire, vous n'avez plus l'école de défense française. Ce serait terminé. Juste parce qu'on a signé un traité que personne ne lisait vraiment en entier. Je vais vous dire, ça, c'est l'autre drame aussi de l'Europe. C'est des traités infernaux. Personne ne les lit et le diable se cache dans l'annexe 312B qui aura échappé au regard scrutateur d'un membre de l'assistance.
C'est ça. Alors, il y a un autre coup d'arrêt, c'est évidemment en 2005, lorsque le référendum dit non et s'est contourné, comme d'habitude, une fois de plus, par les européistes.
En fait, c'est prévu en avance. Ça, je racontais dans un de mes précédents livres sur le référendum impossible que j'avais écrit il y a deux ans maintenant, je crois, où en fait on trouve, c'est très intéressant, on trouve des restes de discussions formelles et informelles avant la tenue du référendum, où en fait l'un ou l'autre des élites européennes, type Romano Prodi, etc., disent clairement, il ne faut pas mentir, il n'y aura pas de plan B, le plan B, ce sera le plan A. Donc en fait, ils ont tout mis en place, d'une manière ou d'une autre, pour que de toute façon, dès le soir du référendum français, le lendemain, on est parti sur une option soi-disant B, qui est devenue une solution soi-disant A prime, et qui est redevenue, en fait, l'option A. Et à mon avis, là-dedans, je vais vous donner un... Ça, c'est plutôt une conviction qu'une... J'ai pas de certitude. Je pense que Nicolas Sarkozy, il a vraiment, au début, tenté de négocier une espèce de traité simplifié, comme il l'a dit.
Ouais.
Et qu'au bout d'un moment, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui se passe toujours. C'est qu'on a perdu. On a bouffé la solution A, parce que de toute façon, l'Europe, c'est soit le fédéralisme et la supranationalité, soit rien du tout, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Est-ce que, Yves-Marie Sévillard,
est-ce qu'aujourd'hui, les pères de l'Europe sont fiers de l'aboutissement que nous connaissons?
Les pères de l'Europe,
à votre sens,
ils sont
dans leur tombe. Est-ce que vous sentez que...
Est-ce qu'on a abouti à ce dont ils
rêvaient, de l'Europe que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'elle correspond à leurs rêves ou est-ce qu'elle est inaboutie?
Alors je vais vous dire, là je suis désolé de paraphraser ou de reprendre le discours de tout à l'heure de Gaulle, ça n'a jamais été que chimère et volume plus qu'intégré. Et de ce point de vue-là, ils ont parfaitement réussi, on est en train de se suicider. Donc Jean Monnet, il n'était pas dans le vrai monde, c'est des gens qui étaient en apesanteur, c'est parfaitement compas. En fait, je vais vous donner un exemple, ça m'a frappé. Quand le juriste français Robert Lecour, il est président de la Cour de... C'est le patron des juges européens dans les années 60. Il se fend d'un édito, qui vend personne ne lit, d'accord, pour justifier le fédéralisme européen. Vous voyez, on est quand même il y a 70 ans quasiment. Et il écrit noir sur blanc dans un édito, c'est ce que je disais tout à l'heure, les frontières vont s'effacer, les peuples vont s'interpénétrer, on sera plus riches ensemble, de la diversité, etc.
C'est ce qu'on a entendu depuis 40 ans.
On dirait du Jacques Attali dans les années 50.
C'est ça.
Or, l'homme qui écrit ça, je suis sûr qu'il y croit un petit peu beaucoup. Il est juge européen. Il doit se dire, ça va vraiment amener là. Parce qu'ils sont vraiment hors sol. Ils sont vraiment cinglés. Ils sont vraiment chimériques. Alors la différence, je pense, fondamentale entre leurs pères, entre les pères et leurs successeurs, c'est qu'ils étaient totalement dans l'erreur, mais certains étaient cultivés. Aujourd'hui, ils sont totalement dans l'erreur.
Mais
et on ne peut pas dire qu'ils soient très cultivés. Mais mine de rien, la chimère a abouti au suicide terminal. De toute façon, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, est-ce qu'ils ont réussi ou pas? Je vais vous dire, Jean Monnet, à mon avis, il aurait été fier d'une chose. C'est que son nom est officiellement sur tous les bâtiments publics de France. Et que récemment, quand j'étais moi-même en réunion à Strasbourg, dans un lieu que je tairais si jamais on tombe sur moi, bâtiment officiel, c'était la salle Jean Monnet. J'ai dit, c'est quand même un peu gênant, la salle Jean Monnet. On m'a dit, mais pourquoi vous dites ça? J'ai dit, vous vous rendez compte?
On a
des négociations dans la salle d'un homme qui littéralement trahit la France pour servir les États-Unis. Il y a quand même mieux comme modèle pour un bâtiment public. Vous voyez, ça me gêne un peu.
Enfin, oui, ça a dû sidérer. Non, mais j'ai quand même une question pour terminer, parce qu'on arrive au terme du temps imparti, comme on dit. Qu'est-ce qui a motivé tous ces gens qui ont poussé cette Europe, pourquoi est-ce qu'ils ont eu tant de foi, d'activité, pourquoi est-ce qu'il a réussi à fédérer autant de chefs d'État derrière lui, Jean Monnet, dans son sillage, autant de gens, pourquoi tant de gens y ont cru? Et pourquoi ça a marché, cette idée d'écraser les vieilles nations qui étaient là depuis toujours?
Idée sincère.
Pour certains, oui.
Est-ce qu'il y a de la sincérité? Qu'est-ce qui, finalement, au fond d'eux-mêmes, les pousse vers ça?
Je vais vous répondre non pas sur les traîtres connus, je parle des hommes politiques qu'on connaît un peu tous, je vais vous répondre pour l'éthique des vrais, ce que j'appelle les vrais maîtres, les hommes occultes, en quelque sorte qu'on connaît peu, qui pour moi ont beaucoup plus de pouvoir en réalité que les hommes de paille presque d'aujourd'hui. Ouais. Bref, passons.
Là, ce qui m'intéresse, du Lagrange dont on parlait.
Oui, il y a un entretien qui m'a paru extrêmement éclairant. C'est lorsque Michel Debré débarque dans une pièce dans laquelle il y a Jean Monnet et Jean Monnet est consulté quant à savoir comment payer les fonctionnaires européens. La question se pose. Ça n'existe pas un fonctionnaire européen à l'époque. Il faut créer de toutes pièces la technostructure, etc., etc. Donc la question de savoir comment on les paye, combien on les paye, comment ça marche. Et Debré débarque, entend cela et il entend Jean Monnet dire qu'il faut très bien les payer parce que c'est la façon de les fidéliser. Le mot n'est pas exactement celui-là, mais on comprend parfaitement l'idée. C'est qu'au bout, on s'achète une structure qui sera aux ordres. Et Debré est scandalisé parce qu'il dit, il a une, je ne sais plus comment il l'emploie exactement, il dit on ne peut pas payer le prix, le prix de la trahison peut être trop élevé. C'est-à-dire que vous devez d'abord vous assurer de l'allégeance au pays. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, parce que tu pars à Luxembourg, tu gagneras le double. Il comprend le risque. Je pense que c'est ainsi que ça a fonctionné. C'est que petit à petit, on a littéralement créé un monde totalement hors sol. Et je vous donne un exemple concret. Un juge, aujourd'hui, en France, il est au tribunal de... Il a un boulot, je dirais, harassant, au tribunal de, je sais pas, de Bobigny, peu importe, mais judiciaire de vous voulez. Il gagne, j'ai pas les grilles devant moi, mais 2500, 2700, 2800 en commençant sa carrière, ou 2300, j'ai pas les grilles exactes, hein, lorsqu'il sort de l'ENM. Un juge de la Cour de justice de l'Union européenne aujourd'hui gagne, par an, 400 000 euros. Ce qui fait du 28 000 euros par mois. Ah oui. Plus voiture avec chauffeur, indemnité compensatoire, etc. Quand vous êtes dans ce monde-là...
Ça vaut le coup de se déplacer.
Je vais vous dire, quand vous êtes dans ce monde-là, vous ne reviendrez plus jamais dans votre pays. Ouais. Plus jamais. Vous êtes un traître à vie. Donc vous avez intérêt à ce que ça se reproduise.
Ce sont des gens qui sont achetés, c'est ça que vous dites.
Mais vous savez, je vais vous donner un exemple. Récemment, vous prenez les affaires des industries françaises, type Alstom, ce qu'on a découvert, où je veux dire, qui étaient littéralement des affaires de corruption. Des gens qui ont vendu des entreprises françaises en se mettant 15 millions dans la poche. Arnaud Montebourg a fait un tableau récapitulatif, en quelque sorte. Lors de la commission d'enquête, il n'a pas mâché ses mots. Au fond, c'est un petit peu la même chose, sauf que la différence, c'est que c'est dissimulé à Bruxelles. Vous savez, c'est la phrase de Charles Pasqua, le Sénat, ça tue autant qu'à l'Assemblée, mais on entend moins les corps qui tombent parce qu'il y a des tapis au sol. Ouais. Sur le fond, à Bruxelles, il y a des tapis au sol, on entend un peu moins les corps tomber, mais je pense qu'il y a aussi des histoires. Ouais, ils sont très épais, voilà.
Ils sont très épais. Et est-ce que, dernière question, est-ce que le sentiment européen, alors j'engage vraiment nos auditeurs à lire votre livre, parce que là, le sentiment européen, il en prend un coup, mais est-ce que il ne se fendille pas quand même un petit peu,
hein? Je ne sais pas ce que vous appelez le sentiment européen, si c'est le fait d'appartenir à la culture européenne. On y était avant, on y sera demain.
Toute cette propagande, vous savez, qu'on a entendu depuis qu'on est né.
Alors, je pense que, par contre, l'Europe, c'est la paix, à mon avis, là. Ouais. Je pense quand même, disons qu'ils ont connu une période, les europhiles ont connu des périodes plus sympathiques que la période actuelle. Je pense que ça rue dans les brancards sévèrement.
C'est ça, on a tout de même. L'impression que ça chauffe un petit peu quand même.
Tout de même.
La population française se rend compte qu'il y a une espèce de réaction, quoi, quand même.
Et d'où d'ailleurs les mécanismes un peu autoritaires utilisés, type DSA, le Digital Service Act, c'est-à-dire la façon pour l'Europe pas de museler, peut-être pas encore à ce stade, mais d'interdire un peu d'antenne ou de calmer le jeu vis-à-vis des médias qui disent du mal d'eux, parce que je pense qu'ils sentent que la partie aujourd'hui est peut-être pas perdue, mais qu'elle est en passe de pas être gagnée. On va dire ça comme ça.
Entendu. Guilain Benessa, merci infiniment.
Merci
à vous. Je rappelle votre livre, je le recommande. Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. C'est chez l'Artilleur. Vous êtes un vrai spécialiste de ce sujet. Vous avez écrit beaucoup de livres sur l'Europe.
C'était pas prévu.
Qui sont absolument passionnants. On apprend énormément de choses et c'est assez étonnant ce qu'on apprend, surtout quand on a été nourri par la propagande européiste, comme les Français de plus de 20 ans l'ont été, tous, à peu près tous.
Moi, je peux finir par une devinette. Quel est l'homme politique que vous avez bien connu qui a voté contre le traité de Rome en 57
Que j'ai bien connu.
Et oui, que nous avons tous bien connu, au moins médiatiquement. Eh bien, c'est Jean-Marie Le Pen.
Ah oui.
En 1957.
Voilà. Ouais, absolument. Voilà, merci Guilain Benessa.
Merci à vous. Sauf qu'il n'y a pas de référendum sur le traité de Rome.
Non.
Et que comme...
Mais il y a un vote.
Oui, mais il y a un vote. Mais comme je le disais, pas de consultation.
Ça fait rail entre juristes. Hein.
Voilà, les deux juristes, on ne les réconciliera pas, mais ils reviendront, on débattra de tous ces sujets. On aura tout à l'heure notre clin d'œil culture, mais d'abord, nous allons parler de l'affaire Canal+, le suicide en direct du cinéma français, avec Pascal Thomas, qui est réalisateur de cinéma, scénariste et acteur-producteur, et qui nous a rejoint tout de suite.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Damien Chalamel, Jean-François Coulon-Desarts et notre ami Yves-Marie Sevilla. Le 17 mai, le Festival de Cannes bat son plein sur la Croisette. Quelques chefs-d'œuvre, beaucoup de navets et une pétition signée par de nombreux inconnus très à gauche circulent contre le propriétaire de Canal+, le méchant du film, Vincent Bolloré. Bref, c'est la routine. Mais soudain, coup de tonnerre dans le ciel rouge de Cannes, le patron de Canal+, Maxime Saada, annonce que le groupe ne travaillera plus avec les 600 signataires de cette tribune contre Vincent Bolloré. On n'avait jamais vu ni imaginé que le patron Punching Ball redresse la tête et rende les coups. En marge du Festival de Cannes, le président du directoire du premier financeur du cinéma français dénonce une injustice envers les équipes de Canal+. Il affirme qu'il a très mal vécu cette pétition qui vise l'actionnaire du groupe, Vincent Bolloré. « Je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition. »
Il a raison.
Dit Monsieur Saada, avec la sortie de Jean-François Coulon-Désart. Depuis, la fièvre a pris dans le milieu du cinéma la revanche du méchant actionnaire de droite. C'est sans doute le meilleur scénario vu à Cannes depuis longtemps. Et avec nous, pour en parler, pour parler de cet épisode, Pascal Thomas. Bonjour Pascal Thomas.
Bonjour.
Bonjour.
Il n'est pas signé. Hein.
Vous n'avez pas signé.
Ils ne vous ont pas proposé non plus.
Voilà. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, hein, vous êtes devenu cinéaste au début des années 70 sous l'aile de Claude Berry. C'est bien ça?
Non.
Non, non, bon, c'est pas ça. Bon.
Si, c'est ça.
Ah, c'est ça. Alors, vous avez un talent pour raconter l'adolescence, la France rurale, les atermoiements du cœur. Vous avez réalisé les Ozos, Pleure pas la bouche pleine. Vous avez fait beaucoup de succès publics, de succès critiques. La dilettante, par exemple, c'est vous, merveilleux film. Mercredi, folle journée, le crime est notre affaire. Celle qu'on n'a pas eu, le chaud lapin. Confidence pour confidence, on ne va pas tous les citer.
Non.
Parce que on
à cause des filles.
N'ennuyons pas les gens.
Hein voilà. Mais je voulais simplement vous demander comment est-ce que vous aviez réagi lorsque vous avez appris cette polémique, lorsque vous avez eu connaissance de cette polémique anti-Bolloré, de cette pétition. Hein, est-ce qu'ils ont raison, finalement, de se dresser contre...
Vous avez vu,
pourquoi n'avez-vous pas signé?
J'ai une mimique, on ne me l'a pas proposé déjà, mais on me l'aurait proposé, je n'aurais pas signé. Mm. Les gens cherchent un diable, tout le temps. Ouais. Et là, ils pourraient en choisir d'autres, de gens fortunés. Mm. Mais ils ont choisi Bolloré, certainement parce que bon, c'est des questions, disons, religieuses. Mm. Il a une certaine fortune, mais il y en a d'autres. Mm. Mais et pour moi, c'est un nom plus facile à retenir. C'est ce que je lui ai dit, c'est trois syllabes. Si vous prenez Niel,
ça c'est Diernu.
Bolloré, c'est comme un chant.
C'est voilà.
Donc, pensez que là... ils ont choisi. Ouais. En même temps, c'est extravagant, parce que c'est quelqu'un de très généreux. Mm. La famille...
Vous le connaissez un peu, vous, personnellement?
Très peu, je le connais un peu.
Est-ce qu'il a financé certains de vos films?
Canal Plus a financé des
Canal
films.
Plus, comme, oui. Comme oui, mais à l'époque, il n'était peut-être pas là, si?
Non,
il n'était pas actionnaire.
Non, mais on présente, quand on doit trouver un financement, on présente à différentes sociétés, dont Canal Plus. Mm. Et ils ont financé raisonnablement, d'ailleurs, sans excès, puisque les films sont modestes d'un point de vue du financement.
Ouais.
Ils ne le sont peut-être pas du point de vue de...
Non, bien sûr, du talent.
De la vanité.
Mais c'est vrai que ce n'était pas le budget de Titanic, c'est ça que vous voulez dire.
Non. Et c'est quelqu'un d'absolument charmant. Et j'ai trouvé ça extravagant. Mais en même temps, comme souvent, j'ai pensé à cette maxime de Sénèque, que j'ai repris avant de venir ici. Le pire, c'est la foule. Et là, vous avez une foule, vous avez un homme seul, ou presque, et voilà. Le pire, c'est la foule. Mmh. Et on peut citer aussi Céline, il ne faut jamais oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sur Terre qui ont raison.
Ouais.
Ils veulent avoir raison. Ils sont persuadés d'avoir raison. Donc, à chaque fois qu'il y a une manifestation...
Il y en a même autour de la table. Il y en a même autour de cette table.
Oui.
Qui veulent avoir raison.
À chaque fois qu'il y a une manifestation de ce genre...
Mais
quand j'étais président de ces sociétés-là, de la quinzaine des réalisateurs, j'étais toujours en conflit à cause des choses comme ça. Par exemple,
Vous n'avez jamais été tellement tenté par l'extrême gauche, vous?
Non.
Non.
Enfin, les extrêmes, peut-être. Mais non. J'ai pas du point de vue. Vous savez, quand j'étais engagé.
Est-ce que vous avez.
Attends, pardon, non, vas-y. Allez-y. Non,
quand j'étais engagé comme journaliste, c'est pour. Mon père était mort, nous étions très, très jeunes, ma mère n'avait pas d'argent, il s'était fait prendre tout l'argent qu'il avait pu gagner par son associé. J'ai retrouvé cette situation-là, ça se transmet, hein, ce type de situation.
Ah oui.
Bon, donc, il m'a fallu travailler pour poursuivre mes études, et donc je suis allé au bus, au bureau universitaire. Ils ont vu que je faisais des études de lettres, j'ai passé ma licence. Et là, ils m'ont dit, tu veux rentrer dans un journal? Oui, c'était huissier. J'ai accepté parce que quand on ne connaît pas les milieux, il faut rentrer huissier. Donc j'ai connu des journalistes. Après, j'y suis revenu. J'ai travaillé un mois chez Féo. Quand des gens m'étaient dans un appartement témoin, quand des gens m'étaient sympathiques,
je leur disais n'achetez
pas, pas ça, c'est de la merde. S'ils m'étaient antipathiques, je faisais l'article. Et j'ai pas vendu un appartement. Bon, ensuite, bon, donc je suis retourné.
Non, mais vous l'avez filmé, Pascal talent. Thomas, le grand appartement. Oui, très joli film, avec Laetitia Casta.
Je suis retourné pour trouver du travail. Je m'ai fait connaître avec des journalistes, dont Pierre Lazareff. Pierre Lazareff, qui après...
Le grand patron de France Soir.
Voilà, qui a pu avoir en moi une ressemblance, parce que lui avait commencé comme cycliste, et moi j'avais commencé comme huissier. Donc, je me suis fait engager, et parmi les choses qu'on m'a demandé, c'était Paul Giannoli, le père de Xavier Giannoli, qui était rédacteur en chef du journal, m'a demandé ce que je voulais faire comme article. Je pouvais faire sur les livres, pas la musique, parce que j'ai pas d'oreille, mais sur différentes choses. Mais surtout pas la politique. Ah bon, et pourquoi? Je dis, parce que le niveau est trop bas. Je veux pas parler de politique. Donc je n'ai jamais...
Mais est-ce que... Pardon, je donne la parole à Damien Chalamel tout de suite, mais auparavant, est-ce que vous avez vu une évolution du milieu du cinéma? Est-ce que, finalement, ce milieu qui ressemble quand même beaucoup à un milieu d'extrême-gauche, aujourd'hui, qui est quand même très, très à gauche, semble-t-il, de loin, mais vous le connaissez mieux que nous, est-ce qu'il était comme ça? Est-ce qu'il a évolué beaucoup, ou finalement, en quelques années? Ou finalement, est-ce que ça...
Évolution, si le mot est impropre.
Ce qu'il est toujours à peu près.
Parler de régression.
Il a régressé pour vous.
plutôt qu'évolution. Non. Que vous dire, je sais jamais. Sinon, il y avait des gens comme Rosier, il faisait l'homme de gauche, mais il habitait chez moi pendant plus de 6 ans. Il était fauché, j'habitais avec ma femme, mes enfants, un très grand appartement. Bon, il avait d'opinion. Dans la conversation, on ne pouvait pas imaginer qu'il était de gauche. Un type comme Bocchi, peut-être, était de droite déclaré. Mais bon, tout ça, ou Verneuil. Mais dans la politique...
Ça comptait peut-être moins.
Ça ne comptait pas, oui. Bon, pour moi, c'est du bavardage. Mais bon.
Excusez-moi. Damien Chalamel.
Non, mais j'ai une question, peut-être un peu technique, mais je lis que dans votre biographie que vous avez présidé la... commission d'avance sur recette du CNC, et on entend de plus en plus, singulièrement à droite, et moi je le déplore, mais bon, une critique systématique du CNC, et donc du système de financement du cinéma français. Moi j'aimerais avoir votre avis sur ce système de cinéma de financement, qui, il a certainement des défauts, mais je pense qu'il il a malgré tout d'immenses qualités, quand on regarde la filmographie... des autres pays en Europe où il y a quasiment plus d'industrie cinématographique.
C'est un très, très bon système. Quand j'y suis rentré, il y avait des choses
qui
me déplaisaient. D'abord, j'ai créé un prix qui s'appelle le prix des réalisateurs, à la commission des réalisateurs, qui s'appelle et qui donne une petite statuette qui s'appelle le carrosse d'or. Pour vous dire, pour moi, c'est pas la gauche, la droite, c'est le niveau des gens.
Voilà. Ouais.
Parce que on me disait, mais pourquoi t'appelles ça le carrosse d'or? J'ai dit, tu connais pas le carrosse d'or? Mais non, je sais pas que c'est un film de Renoir. Et qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Alors là, la réponse, elle est une stupidité.
Crasse.
Il dit, parce que ça fait noble. Ils ont pas dit que ça faisait aristocratique ou quelque chose. Ça fait noble. Bon, je vous dis pas qui a dit ça.
Ouais.
Mais. Non, je ne dénonce pas.
D'accord.
Mais mon père m'a dit qu'il ne fallait pas dénoncer.
Il a raison.
Il nous avait amené, comme tous les Poitevins, ils amènent leurs enfants à Oradour-sur-Glane, qui était à une cinquantaine de kilomètres de notre pays. Et en sortant de cette horreur, il nous a dit, tu entends, Pascal, dans la vie, tu n'attaqueras jamais plus faible et jamais tu ne dénonceras. J'ai des frissons en disant ça. J'entends sa voix. On ne dénonce pas. Bon, on peut critiquer, on peut se moquer, on peut dire des choses comme ça, mais on ne dénonce pas. Je n'ai pas répondu à votre question.
Si,
c'est intéressant.
Oui, le CNC. Donc, quand j'y suis arrivé, j'ai créé, alors ça aussi, un prix pour les anciens. Vous voyez, il y avait les jeunes qui pouvaient être. J'ai dit, mais non, et les anciens, le cinéma, il est fait par des tas de gens. Donc il a fallu batailler pour que les vieux puissent avoir une avance. Pourquoi est-ce que Renoir, qui avait aussi besoin d'argent à la fin de sa vie, ne pouvait-il pas avoir d'avance? Il y en a eu plein comme ça.
Ouais.
Bon. Et ensuite, l'autre chose, je ne me rappelle plus mes exploits, il y a autre chose. On y reviendra.
Non, mais on a le sentiment parfois de l'extérieur que c'est un petit cénacle qui se dans l'entre-soi, qui est beaucoup dans l'entre-soi, qui se coopte, etc. Alors c'est vrai de tous les petits milieux, le milieu journalistique n'échappe pas d'ailleurs à ce.
Je voulais qu'on regarde aussi attentivement et qu'on aide les films de genre. De genre, et les types ne savaient pas ce que c'était que le film de genre. Vous imaginez, ils sont cinéastes.
C'est-à-dire le roman, le
policier, la comédie musicale, etc. Donc, pour moi, c'est
c'était considéré comme un peu en dessous, quoi.
Non, c'est pas en dessous. Il y a des plus grands films. Le film de genre, par exemple, la série A, la série B, c'est pas la qualité, c'était le financement. Les séries Z, il y a des films d'Ulmer qui sont des purs chefs-d'œuvre. Qui ont été tournés en 5 jours.
Mmh.
Vous voyez, vous voyez Détour, un film absolument génial, et j'en parlais encore hier, c'était des financements qui étaient désignés par ces A, B, C, D, Z, jusqu'à Z.
Mmh.
Voilà. Mais en effet, ils se racontent tous les mêmes choses.
Mais est-ce que le vrai sujet, finalement, c'est pas Vincent Bolloré, mais... c'est la fragilité du système de financement qui repose par décret sur une personne, sur Canal, quoi, pratiquement. Est-ce que
Non, on peut pas dire ça. Non.
Ils participent, mais ils sont souvent. C'est une pierre importante dans le financement.
Ils sont très généreux. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas de censure. Vous voyez, bon, évidemment, si vous avez des choses invisibles, ils vont peut-être pas là,
oui, des projets ils subodorent, qui n'auront pas de public.
Voilà, oui. Non, mais c'est même pas le public.
Ils font un peu de tri.
Oui mais je disais ça, c'était pas du tout une attaque contre Bolloré, pas du tout. Mais c'est le seul actionnaire, c'est l'actionnaire principal, et ça peut heurter les convictions, entre guillemets, de ceux qui ont signé la pétition. Est-ce que finalement, le vrai sujet, c'est pas sur le financement du cinéma français? Est-ce qu'il faudrait pas l'élargir? Trouver d'autres systèmes, d'autres argent dans d'autres secteurs, est-ce que c'est pas ça?
Si c'est avec Xavier Niel à la place de Bolloré,
il faut m'éviter.
Il dégusterait.
Il faut m'éviter, oui.
Ah, non, mais je voulais revenir à la citation, à la pétition, pardon, contre Canal. Bon, il y a un certain nombre de signataires, Juliette Binoche, Adèle Haenel, Anna Mouglalis.
C'est toujours les mêmes.
Blanche Gardin, etc.
Charles Berling.
Mais est-ce que, bon, d'abord, Charles Berling, etc., est-ce que ça vous surprend sur ceux qui ont signé dès demain? Mais en fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Et la plupart...
On dit qu'il y en a 600 maintenant.
Alors,
il y en a plus que ça.
Il y en a 2000 maintenant.
Oui, ils ont plus de 2000.
Voilà.
Il y en a plein d'étrangers, etc.
Oui, mais ce qui est amusant, c'est que Le Figaro a fait un très bon papier là-dessus. Ils sont allés un peu fouiller, ils ont vu les noms, et puis ils sont allés fouiller, voir qui y avait derrière. Donc, le titre de l'article, en tout cas le chapeau, « Travailleurs du sexe, producteurs télé, historiens de l'art, qui sont vraiment les 2000 signataires de la pétition entre Bolloré. »
Voilà, apparemment, il n'y a pas que des grands réalisateurs.
Il n'y a pas que le milieu, visiblement. On sent que tout ça est très, très téléguidé, quoi. Donc, voilà.
Ils veulent un diable. Alors, c'est un diable, c'est le peu que je le connais. Hein. On a des échanges comme ça, mais c'est un homme extrêmement courtois. Moi, j'ai bien connu un de ses parents.
Vous parlez de Vincent Bolloré.
Gwenaël Bolloré. Qui était
Bolloré.
Un bibliophile. Je l'ai connu à l'époque où j'étais moi aussi bibliophile, où j'avais un peu de sous, dans des salles de vente. Et une fois, on s'est retrouvé, plus d'une fois, on s'est retrouvé le désir, mais à chaque fois j'ai perdu. Mais il y avait un livre de Michaud, pour des raisons un peu trop longues à expliquer, que je voulais absolument. Et c'est lui qui a fini par l'avoir, et devant la prenant le livre de Michaud, le regardant, devant la table du commissaire-priseur, il a fait, je l'ai payé celui-là, il m'a, vous l'avez voulu, l'avez vu. Voilà. Ouais, c'était un type très charmant, ce sont des gens cultivés, en Bretagne,
Il a fait un musée, hein, je crois, Guénel, Bolloré.
Le nombre de personnes qu'il faut.
À Hergé Gaberic, au siège de Bolloré.
Oui, c'est ça. Qu'ils font travailler la générosité.
Ça vous choque qu'on critique à ce point Bolloré, parce qu'il est quand même. Il est quand même salement secoué par la gauche.
C'est pas que ça m'achète.
Par l'extrême gauche.
Les gens veulent un diable. Ils ont choisi celui-là.
Ouais.
Alors qu'il est, c'est certainement le moins avant c'était Dassault, c'est le moins diabolique, ouais. Et Dassault était de la même chose. Marcel Dassault était d'une drôlerie infinie, vraiment infinie. Et là, moi, j'ai travaillé à Jour de France avec des tas de gens. Il fallait, on était dit, alors là, c'était assez amusant parce qu'il fallait, il fallait que les articles aillent dans l'intérêt devait se dégrader. Donc la première phrase, ça devait être, par exemple, le secret de Brigitte Bardot, c'est un homme. Oh. Ouais. Et puis après, bon, ça...
Ouais. Non.
Et puis, oui. Donc ça, et puis ouais. Bon, il fallait que l'intérêt diminue. Bon. Donc, il ne fallait pas non plus dépasser un certain nombre de pages. Et quand il était content, il venait avec Bénouville. Alors, oh, ben, je suis content. Là, il avait mis de l'argent Guylaine liquide Bénouville. Dans les poches. Ouais. Il nous donnait des. Alors, on était tous là, cravatés, parce qu'il fallait la cravate. Le seul truc, où des gens comme Marvier ou Cavigliolli, qui étaient des journalistes supérieurs, d'une grande fantaisie, d'un talent fou, étaient cravatés aussi, etc. Et puis un jour, il dit, oh là, c'est le meilleur Jour de France que j'ai vu. Enfin, des enfants. Là, je suis très, très, très content. Alors, nous, on attendait, puis il est très content.
Le portrait de Marcel Dassault.
On va voir combien. Il venait d'acheter le cinéma aux Champs-Élysées. Il sort un paquet de créma. Il a de bonbons créma. Il a donné un bonbon à chacun d'entre nous. Et chacun était manifesté son contentement, évidemment.
Et c'est remerciement. Oui, mais c'est quand même une autre époque.
Ah, j'ai l'impression. Mais ça dépend, l'esprit.
Ouais.
Ça dépend. Je sais pas.
Ouais. Vous retrouvez parmi les acteurs, et je vous donne la parole juste après, Yves-Marie Sevilla, vous trouvez que les acteurs, le milieu du cinéma...
J'ai commencé par faire des films à caractère.
À garder son
autobiographie.
Tempérament. Ouais.
Donc, mon premier film, donc, je me racontais. Et tout d'un coup, et je voulais que le type... J'étais bon en français, provocateur, enfin tout ce qu'on veut. Mais en même temps, j'étais pas beau. N'étant pas beau, je voulais un acteur qui ait de l'allure, une sorte de Cary Grant pour me représenter. J'en avais trouvé un, donc je le choisis. Le type était fort en thème, tout ce qu'on veut, etc. Et la première scène du film, c'est une scène de flirt dans le souterrain du stade de Montargis. Donc, il embrasse la fille et il la pétrissait. Dis donc, tu ne pétris pas, tu la caresses, etc. Et puis, on commence, il pétrit. L'émotion du baiser le mettait dans un état second. Dis, bon séducteur, j'en trouve un autre. Et finalement, j'en ai trouvé un autre. Et ce type qui avait 5 traits de caractère différents, j'étais aussi commerçant parce qu'il y avait le chef, l'armée américaine, j'avais fréquenté la fille d'un officier américain qui m'avait donné une carte pour aller, et je faisais du commerce. J'avais 3 casiers, un casier pour les livres et les cahiers, un casier pour la bibliothèque et un casier pour le commerce. Le beurre de cacahuète, les jeans, etc. Les premiers Levi's vendus. Parmi les premiers, c'est moi qui les ai vendus à Bordenblo.
Ah, si vous incroyable. Me dites,
ça c'est quelque chose.
Vous avez vraiment touché. Yves-Marie Sevilla.
Oui, Pascal Thomas. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, il y a 20 ans, 30 ans, une situation similaire se dérouler? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est effectivement le milieu qui est plus à gauche aujourd'hui qu'il ne l'était? Ou est-ce que c'est culturellement la bêtise de l'homme qui se développe et qu'on ne peut plus travailler avec quelqu'un parce qu'il aurait des opinions différentes de soi?
Moi, je pense que la deuxième proposition est la bonne. La bêtise, c'est un peu fort, là. J'ai stupidité qui vient, là. La peur.
La peur irrationnelle.
Non, les gens ont peur d'être critiqués, d'être... Donc, il s'est... Il y a trop d'autres gens qui ont la même opinion.
Si on peut appeler ça une opinion.
Si, bien sûr que c'est. Non, je pense que ça a dû être, même chez les Grecs, ça a dû être pareil. Hein. Je pense, vous pensez pas que...
Que les auteurs grecs étaient...
Oui, il y avait des conflits de ce type.
C'était conflictuel, ouais. Oui. Allez, nous sommes avec Pascal Thomas, et grand réalisateur, avec lequel nous parlons de la polémique de Canal+, oui, et de cette pétition anti-Bolloré qui a circulé à Cannes. Damien Chalamel.
Non, mais j'aurais voulu répondre à cette question, l'importance de cette signature, mais elle se mesure à ce que disait Jean-François, c'est-à-dire la médiocrité de ceux qui l'ont signé et qui sont pour la plupart en réalité de parfaits inconnus. On a cité deux, trois acteurs.
Il y a quelques stars,
c'est epsilonesque.
Il y a encore des stars.
En réalité. Tout ça est dérisoire, mais ça révèle effectivement un certain état d'esprit dans cette industrie, si on peut appeler ça une industrie, mais chez des médiocres, chez des imbéciles, et surtout chez finalement, somme toute, relativement peu de personnes, en tous les cas, qui ne comptent pas. Donc moi, je suis assez rassuré, je vais vous dire.
Moi, je pense pas qu'il y a des... On peut pas dire qu'il y a des imbéciles. Il y a des gens... Les sentiments sont variés. Il y a des stupides, c'est sûr.
Non, mais cette pétition est imbécile.
Il y a des suiveurs.
J'aurais dire ça. Voilà. Cette pétition, l'ont-ils lu, l'ont-ils compris, ont-ils mesuré l'absurdité?
Il y a quand même un sentiment de Bolloré qui est puissant.
Il y en a qui l'ont écrite. Hein.
Oui, mais bien sûr, mais enfin, ceux qui l'ont signé, qui sont un peu notoires, je suis désolé.
Il y en a beaucoup qui sont revenus sur leur pour aller dans votre sens.
Oui, voilà.
Qui sont revenus à toute vapeur en disant
il y a des blanches arrières.
Finalement, on prend l'argent.
On n'est pas si compte que ça.
En même temps, ils auraient des conversations, j'en ai eu peu, mais avec Vincent Bolloré. Ils seraient enchantés s'il n'y avait pas ce nom qui les aveugle.
Moi, pour aller dans votre sens, Pascal Thomas, j'ai été très frappé Vincent Bolloré était devant mes oncles. Il a répondu parfaitement, il était calme, il était précis, il était aussi en costume cravate. Et puis après, on a vu M. Niels, qui est arrivé... Niels, moi je l'appelle Niels. qui a été odieux, qui a été vulgaire, qui a été c'est tout. Voilà,
au Cap Ferret, il est épouvantable. Hein.
Oui.
C'est ce que je peux te dire.
Ouais. Et là, je vous trouve sévère parce qu'il avait décommandé sa présence.
Oui, parce qu'il était à Courchevel.
Il a expliqué à la représentation nationale qu'il avait une affaire très importante à régler.
Oui,
effectivement, on a appris que c'est très important.
En fait, il était à Courchevel.
C'est les caractères, oui, bien sûr. Mais je pense à cette émission que tu évoques. Il est là. La tenue de Vincent Bolloré était parfaite. Il argumentait, il était d'un grand calme. Aussi, il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer, c'est la distance ironique légère.
Oui, toujours.
Parce que la distance ironique, bon, parfois elle prend des formes un peu... Là, c'est léger, parfois un petit peu plus fort, etc.
Ouais.
Et ça, c'est ce qui me paraît le meilleur chez un homme, la distance ironique. D'ailleurs,
il est très drôle,
dans la définition de Malraux de l'intelligence, je crois que c'est dans l'émission de Roger Siffman, il y a à la fois le sens de l'analyse et la distance ironique.
Ouais.
Je recommande l'émission de Stéphane sur Malraux. Il est
Roger Siffman.
Très bien.
Très drôle. Alors, de fait, je voulais simplement le rappeler, la presse recule à toute vapeur, hein, Frontal par exemple, qui est la newsletter de Libération, hein, dont le site a hébergé la Tribune, donc ils étaient aux premières loges pour attaquer, reconnaît implicitement, elle a regretté, ce petit média, que les syndicats du secteur refusent de s'exprimer sur le sujet, et que les gros producteurs soient aux abonnés absents, je cite encore. Donc...
Est-ce que le débat n'est pas plus large finalement, c'est-à-dire qu'une actrice, un acteur,
Jean-François Coulon,
on le regarde, il va nous faire rêver, il va nous faire pleurer, il va nous faire... Mais ses opinions politiques, on n'en a rien à secouer, quoi. Et puis je pense que les acteurs sont bons quand ils ont un texte, quand ils ont un scénario. Quand ils n'ont pas de texte, souvent, c'est un peu délicat.
Oui, mais il y en a beaucoup qui le considèrent comme ça, on a vu le...
Le texte, c'est pas ce qu'il y a de le plus essentiel, à mon avis. Il y a le jeu, le comportement,
non, mais je dis, quand ils ont
la façon de marcher, d'être,
non,
de rire.
Ah, ouais, absolument. Non, mais quand ils ont
Funès, tu ne peux pas dire que tu as besoin du texte.
Non, mais je disais, quand ils ont un texte, quand ils n'ont pas de texte, lorsqu'ils répondent à des interviews, là, ils n'ont pas de texte, c'est eux qui parlent.
Oui.
C'est ça que je disais.
Ah, oui, oui.
Et là, parfois, on a des perles, quand même, de culture.
Oui,
hein.
Oui.
Ouais. Ce qu'ils pensent politiquement, on s'en fiche.
Mais on s'en fiche de ce que tout le monde pense politiquement. Tout le monde.
Bien sûr, absolument.
Comment est-ce qu'on dirige des acteurs, Pascal Kahn, Thomas?
Moi, je ne dirige pas.
Vous ne les dirigez pas? Vous
j'ai
les
pris beaucoup de, ouais, beaucoup de gens qui n'ont... Parce que je cherchais des gens singuliers, représentatifs du pays, de la France, et de la province. Donc, une fois, je cherchais une mère de famille.
Ouais.
Bon, une mère de famille, mais bon, la mère de famille, c'est bon. Et puis, je voyais des actrices, elles pouvaient faire des tas de rôles, mais pas mère de famille. Donc, j'ai pris... Il y a Miller qui m'avait appelé, il dit, Pascal, il y a une femme à côté de chez moi, la femme du garagiste, qui serait très très bien, et en effet, Christiane Chamaret. Et donc, je l'ai employée comme mère de famille, elle était parfaite, elle était mariée à Carmet, dans le film, c'est dans Poche Plein. Elle était promenée peut-être avec une jeune fille de bonne famille, dont les rougeurs délicates trahissent légèrement les mois profonds.
Ah oui.
Mais ils avaient trouvé une dite trop longue. Bon, et puis il y avait cette réplique qu'on dit chez moi dans le Poitou, on pleure pas la bouche pleine, bon, qui plaisait, qui est devenu le titre du film. Cette Christiane Chamaret a été excellente. Mais ce qui compte, c'est mettre même les acteurs, les mettre dans l'état d'être eux-mêmes. Pardon, si vous secouez la tête comme ça, vous passez les lèvres, bon, je fais en sorte... Là, il y a le sourire qui vient, je ferai en sorte, le sourire est venu de ces deux côtés-là, et là, là, il a été plus tempéré, bon, et là aussi. Bon, non, mais c'est ce que je cherche, c'est ce que la vie me propose. Donc, il y a une ligne, il y a certainement une ligne, mais par exemple, sur le phrasé, il faut que ça soit celui de la personne qui interprète. J'ai changé ça une fois, pour la dilettante. C'est parce que bon, le modèle, la dilettante à l'époque, on
ne
disait pas dilettante, je vous avais peut-être... ça n'était pas au féminin, puisque ça venait des Italiens, il y avait des dilettantes, ceux qui ne travaillaient pas, qui restaient sur le banc à chanter, etc., et ceux qui travaillaient. Tant que la femme n'a pas accédé, comme on dit aujourd'hui, je mets les guillemets parce que j'aime pas, au monde du travail, fermez les guillemets, on ne pouvait pas avoir de dilettante. Donc le mot n'était même pas au féminin dans le Larousse. Il est venu au féminin après, dans les dictionnaires. Donc, la comédienne j'avais choisi pour l'interpréter, Catherine Frou, très bonne comédienne, ne comprenait pas. Elle dit ça, donnez-moi la psychologie de cette dilettante. Écoutez, la psychologie, je ne peux pas vous le dire, je suis né avant Freud, donc je ne connais pas le mot, mais je peux vous dire comment elle bouge et comment elle parle. Son phrasé... Et là, je lui fais écouter la femme qui m'a paru la plus dilettante dans mes rencontres, qui était Louise de Villemorin, que j'ai vue dans ces réunions. Il y avait Gwenaël Bolloré, venait aux réunions de Louise de Villemorin, qui amusait beaucoup. Et tout le monde se marrait, elle était incroyable. Et donc, il y avait eu heureusement un enregistrement d'elle. Je crois que c'est Roger Stéphane aussi.
Il avait fait.
Elle accélérait. Elle freinait. Quand elle ne trouvait pas son mot, elle criait au secours. Donc je dis, voilà, le phrasé de la dilettante, c'est celui-là. Et elle a reproduit parfaitement, Catherine Frou. Et quand elle faisait trop l'actrice, je lui disais, Louise, hop, elle retrouvait le phrasé de Louise de Villemorin.
Incroyable. Voilà. Donc, vous suivrez le palmarès du festival?
Ça fait,
Pascal
oui,
Thomas.
Oui, je regarderai.
Quand même. Bon.
C'était à Verrières, là.
Je ne sais pas ce qu'il y a, d'ailleurs.
Ouais. Quand vous rencontriez Louise de Villemorin, c'était à Verrières,
Verrières, Buisson.
Oui, chez elle. Là,
avec Malraux.
Dans le salon bleu.
Le fameux salon bleu.
Louise de Villemorin, grand personnage. Pascal Thomas, merci beaucoup d'être venu nous voir et d'avoir parlé un peu cinéma avec nous. Alors justement, on passe au clin d'œil culture. Tout de suite, ce qu'on a retenu et ce qu'on recommande, ce qu'on a lu, vu...
Peut-être la culture, c'est des choses que je critiquerais, comme formulation.
Ah bon?
La culture, ça s'écrit pour moi avec un K. C'est un mot allemand, c'est écrit avec un K.
Qu'est-ce que vous donneriez comme mot à la place de culture?
Le plaisir.
Le plaisir. Bon, ouais. le quart d'heure plaisir, alors.
Quart d'heure plaisir.
Je vais peut-être garder l'idée. Hein.
Le plaisir, c'est
qui va être réduit.
Bon, voilà, qui va être très réduit.
Il y a des coûts très réduits.
Voilà, très réduit.
Ou la civilisation.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Jean-François Coulon-Désart, Damien Chalamel, Yves-Marie Sevilla et Pascal Thomas qui est resté parmi nous. Jean-François Coulon-Désart, vous avez 20 secondes.
20 secondes non, je vais en prendre plus. Cette film de Pascal Thomas, que des comédies, comme il y a une caméra dans le studio, maintenant on est filmé, c'est terrible.
Ouais.
Voilà, ça c'est ce qu'il faut absolument avoir.
Cette film de Pascal Thomas, que des comédies.
Le show lapin, la surprise du chef, Confidence pour Confidence, celle qu'on n'a pas eue, les maris, les femmes et les amants. Et quand est-ce que sortent les autres? Parce que là, il n'y a pas tout.
C'est un coffret édité par TF1.
Par TF1 Studio, et c'est absolument à voir, c'est magnifique.
Merveilleux. J'ai demandé à Canal+.
Voilà, il faut demander à Canal+. Et puis, je voulais juste faire un petit clin d'œil au maire de Cannes, David Lisnard.
Il est formidable.
Voilà, parce qu'il vient de faire quelque chose d'incroyable. Il a baptisé la plage publique, qui est située tout près du Palais des Festivals. Ça s'appelle la plage Brigitte Bardot. Et il fallait le faire parce que quand Brigitte est morte, souvenez-vous, la presse une certaine presse a plutôt été extrêmement, comment dire,
salissante.
Odieuse. Ouais, c'est ça.
Ah non, mais c'est incroyable.
Et il a dit.
La liberté de cette femme.
Voilà, David Lisnard a dit Brigitte Bardot incarnait la liberté, celle de la femme, de son corps, de ses choix, celle d'une carrière sur laquelle elle aura toujours gardé la main. Voilà,
merveilleuse, bravo, David. Merveilleuse Brigitte Bardot. Yves-Marie Sevilla.
Oui, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont amateurs de spectacles et de musique classique, vous avez une troupe amateur qui va donner un certain nombre de représentations. La troupe amateur s'appelle Oya Kefale. Et ils vont jouer les Pirates de Pisance, qui est effectivement une adaptation française d'une œuvre anglaise de Gilbert et Sullivan. Donc une opérette de style Offenbach, qui s'est jouée à Asnières. Vous verrez tout ça sur le site de Oya Kefale et les Pirates de Pisance, et je pense qu'ils passeront un excellent moment.
Magnifique. Allez, on en termine. Je vous parlerai de l'exposition Jardin des Lumières 1750-1800, exposition qui est à Versailles la prochaine fois. Damien Chalamel aussi, gardez précieusement votre idée pour la prochaine fois. On en termine. Restons courtois du vendredi, c'est fini. Merci à vous tous dans ce studio. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux petites heures en votre compagnie, comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie. Reste un miracle. Oui, Pascal Thomas.
On a cité le nom de Gilbert O'Sullivan. C'est un auteur extraordinaire que je conseille à tous vos auditeurs.
Merveilleux, c'est dit. Donc, comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie, aider Boulevard Voltaire dans le climat actuel, vous le savez, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 29 mai, même heure, même adresse. Restons courtois, 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie, avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.